Point de mire.
Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Édouard Rosset.
Point de mire s'intéresse aujourd'hui à ces entreprises, à ces initiatives qui œuvrent pour l'avenir du monde. Alors pourquoi cet intérêt ? Eh bien, tout simplement en tant que radio mondiale, diffusant ses programmes sur Internet, Canal Académie, première radio académique francophone, est elle-même très attachée à la diffusion et au partage des valeurs, des idées, si chères à celles et ceux qui furent baptisés à juste titre les Lumières. Un homme fait partie de cela, notre invité aujourd'hui, Monsieur Marcel Boisard, sous-secrétaire général des Nations Unies. Bonjour monsieur.
Bonjour monsieur.
Merci d'avoir répondu présent à l'invitation de Canal Académie. Alors nous verrons au fil de cet entretien et à travers votre portrait et surtout votre parcours, je dirais, à la fois géographique et intellectuel, eh bien que l'international occupe vraiment une grande place, pour ne pas dire une place prépondérante dans votre vie, dans votre action. Et lorsque l'on s'intéresse à vos travaux, à vos conférences, tout simplement aux fruits de votre réflexion et de votre action, on se dit finalement que, eh bien, malgré les blocages politiques, diplomatiques, économiques, les blocages de toutes sortes, eh bien finalement, le monde est réellement à la portée de tous, à condition de le vouloir réellement.
Oh, absolument, j'aime bien votre définition. Le monde est à la portée de tous, oui. C'est une question de volonté. C'est aussi une question d'approche des problèmes, qui doit se faire avec à la fois une très grande ouverture, une très grande ambition et une immense modestie. Et je pense que le monde est à la portée de tous.
Alors, né à Genève, citoyen suisse, nous allons voir que vos activités internationales vous amènent à travailler à la fois sur des missions diplomatiques, humanitaires, dans l'enseignement, la recherche académique et puis l'Organisation des Nations Unies. Dans les années 60, vous avez participé aux négociations pour le traité d'association entre la Communauté économique européenne. À l'époque, il y avait 6 États et les États africains associés. En fait, l'Afrique est vraiment très très présente dans votre vie, votre carrière. Ce fut un choix au départ, volontaire ?
L'international fut un choix, ça sans aucun doute.
Les grands rapports de force économique ont-ils évolué depuis ? Ont-ils évolué, je dirais, à la hauteur de vos ambitions de l'époque ? Comment avez-vous vu évoluer les choses ?
Oui, alors je crois que incontestablement, c'est un bilan très mitigé. On avait, peut-être par naïveté, au moment où je suis sorti de mes études, j'imaginais que nous allions changer le monde plus fondamentalement, qu'il y aurait moins de pauvres, que les pays allaient réellement se développer. En fait, il y a une certaine déception sur le plan économique, je dirais, puisqu'il y a encore beaucoup de pays pauvres, très pauvres, et l'écart entre les plus riches et les plus pauvres ne diminue pas, au contraire. Donc il y a un bilan, je dirais, personnellement, je le trouve plus que mitigé, je le trouve négatif.
Et alors aujourd'hui, vers quel continent, vers quelle zone du monde se tourne votre regard et, je dirais, doivent se tourner tous nos regards aujourd'hui ?
Par la force des choses, étant aux Nations Unies, notre regard devrait couvrir le globe, mais il y a un certain nombre de priorités, c'est évident. Je pense que la priorité sur le plan économique demeure l'Afrique, avec ces grands retards dans le développement économique et un besoin de transformation profonde pour que les Africains retrouvent pas seulement le confort matériel, mais la dignité humaine auquel ils aspirent et auquel ils ont droit. Sur le plan politique, mais ça c'est peut-être une appréciation personnelle, je crois qu'il faut concentrer nos regards sur le Moyen-Orient. C'est évidemment pas très original ce que je vous dis, mais il s'avère que j'ai fait mes études sur le monde islamique et le monde arabe. Et l'un des grands problèmes politiques et les grands problèmes, je dirais, de guerre et paix sont en train de se dérouler sous nos yeux. Et on a parfois le sentiment d'impuissance parce que les cercles vicieux dans les divers points chauds de ce Moyen-Orient ne font que se multiplier.
À vous entendre, à vous écouter, Marcel Boisard, nous avons vraiment l'impression que le monde, en ce début du XXIe siècle, est arrivé à la croisée des chemins, tant en termes politiques, économiques que diplomatiques.
Je crois que c'est Berne qui disait chacun d'une génération d'après-guerre, n'est-ce pas ? Donc on est toujours en train d'être à une croisée des chemins. Mais maintenant, à cause de la mondialisation, d'abord de l'information, vous en êtes la meilleure preuve, les nouvelles s'accélèrent, donc les phénomènes s'accélèrent également et sont pris dans une sorte de tourmente qui les aggrave. Et ça, c'est sans aucun doute une préoccupation.
Alors, pour le développement des pays qui en ont le plus besoin, aujourd'hui, il y a ces nombreuses structures que nous allons évoquer et nous allons entrer dans le détail parmi vos nombreuses fonctions que je n'ai pas encore citées. Je vous présentais en tant que sous-secrétaire général des Nations Unies, mais il y a beaucoup d'autres titres et notamment directeur général de l'UNITAR, l'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche. De quoi s'agit-il exactement, l'UNITAR, Monsieur Boisard ?
Oui, alors l'UNITAR a été créé en 1965, donc nous sommes une institution très jeune, surtout si on compare à la sagesse de votre institution. Mais nous essayons, comme vous, de transmettre la connaissance. Je dirais que c'est plus que transmettre, c'est de la créer ou de récolter et de la diffuser, cette connaissance. Nous avons été établis par décision de l'Assemblée générale des Nations Unies, donc en 1965, pour aider l'organisation à être plus efficace dans le domaine de la paix et de la sécurité, du développement économique et social. Ceci nous a amené à développer nos programmes de façon pragmatique, mais très concrète, sous deux grands chapeaux, je dirais. D'une part, ce que nous appelons la formation à la gestion des affaires internationales, et d'autre part, la formation au développement économique et social. Alors, les champs sont tellement immenses que nous avons, par la force des choses, dû faire un certain nombre de choix. Alors, pour la formation à la gestion des affaires internationales, nous avons d'une part la formation diplomatique à proprement parler, avec une emphase particulière sur la diplomatie multilatérale, donc Nations Unies, système des Nations Unies, avec différents programmes qui s'adressent à de jeunes fonctionnaires ou jusqu'à des ministres ou ambassadeurs. Dans le domaine du développement économique et social, je pourrais revenir sur tous ces sujets, mais je dresse brièvement le tableau en donnant les deux piliers principaux. Dans le domaine du développement économique et social, nos choix se sont portés sur la formation et le développement des capacités dans le domaine de la gestion de l'environnement. Nous sommes devenus le bras formateur, en quelque sorte, des conventions qui sont nées lors du sommet de la Terre à Rio, plus de conventions plus récentes qui touchent en particulier les produits chimiques et les déchets. Et nous avons toute une série de programmes de formation dans le domaine des finances, dans le domaine du commerce international, l'OMC. Et le programme qui maintenant se développe avec le plus de rapidité, le plus de succès, je dirais, est un programme qui touche à la coopération dite décentralisée. Donc la coopération décentralisée qui cesse d'être une coopération interétatique, mais qui inclut de nouveaux acteurs.
C'est-à-dire que l'UNITAR et les actions de l'UNITAR s'adaptent vraiment à l'évolution du monde. Comment se passent les formations ? Vous parliez de formation diplomatique, de gestion de l'environnement. Comment cela se déroule au quotidien ?
Le titre exact de notre institut, c'est Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche. Donc nous ne faisons pas de recherche de type académique. Mais en revanche, nous faisons une recherche soutenue, voire poussée, dans le domaine des méthodologies de formation. Donc en fonction des sujets, en fonction des publics que nous touchons, les méthodologies sont adaptées. Nous avons par exemple un programme pour les envoyés spéciaux du secrétaire général des Nations Unies, ils sont une trentaine dans le monde, ce sont d'anciens ministres ou premiers ministres. Nous ne les formons pas, mais nous essayons de les réunir pour échanger des idées, évaluer les bonnes pratiques. Nous avons d'autres programmes de formation qui sont véritablement très concrets et qui s'adressent à de jeunes fonctionnaires.
Et vous avez des outils de travail donc, à travers différentes sous-structures de l'UNITAR. Je dirais.
Oui, alors le siège de l'UNITAR est à Genève depuis 1992. C'est aussi intéressant, nous avons été transférés de New York à Genève, qui est un peu exceptionnel parce qu'il y a plus, plutôt une tendance à centraliser maintenant de plus en plus sur New York. Donc nous avons pris le chemin inverse. Donc le siège est à Genève et nous avons deux bureaux régionaux, un à New York auprès du siège des Nations Unies et qui couvre les Amériques, et un à Hiroshima au Japon pour l'Asie et le Pacifique. Outre ceci, nous avons ce que nous appelons des centres associés. Mais alors ça concerne essentiellement notre programme de coopération décentralisée. C'est-à-dire que dans la perspective ou dans la préparation des sommets mondiaux, des deux derniers sommets mondiaux, le premier, celui de Johannesburg sur le développement durable, et le second sur la société de l'information qui s'est tenue à Genève, nous avons, pour préparer ces sommets, et surtout pour donner toute l'importance aux pouvoirs locaux, c'est-à-dire aux régions ou grandes municipalités dans le monde, établi des centres associés à l'UNITAR. Nous en avons un au Brésil, à Curitiba, pour l'Amérique latine et les Caraïbes. Nous en avons bientôt trois en Afrique. Pour le développement durable, un à Ouagadougou pour l'Afrique francophone, l'autre qui est à Durban en Afrique du Sud pour l'Afrique anglophone. Et nous avons un embryon de centre à Nouakchott, centre associé qui s'occupera essentiellement de la société de l'information. Nous avons un centre à Shanghai pour la société de l'information et un à Kuala Lumpur pour le développement durable. Ce sont officiellement des organisations internationales, régionales, qui n'ont pas un statut intergouvernemental, mais qui mettent en musique, si vous me passez l'expression, nos diverses activités sur le plan régional.
Pour illustrer votre propos, M. Boisard, sous-secrétaire général des Nations Unies, nous sommes en compagnie de Guylaine Alajouanine qui vous accompagne. Guylaine Alajouanine, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes déléguée générale d'Agintis. En fait, c'est le programme de coopération décentralisée de l'UNITAR. Et là, c'est l'une des unités dont parlait M. Boisard.
Absolument, c'est un des programmes. Comme vous avez pu le voir sur notre belle plaquette.
Alors je vais lire. Agintis, c'est accord général pour l'exploitation des nouvelles technologies au service des initiatives sociales.
Bravo.
Belle mission.
Bien joué. Donc l'Agintis, c'est le cadre qui permet la mise en œuvre, si vous voulez, pour les actions prioritaires des collectivités locales. C'est le pilier pour la société de l'information. C'est un outil, comme vous le disiez très, très justement tout à l'heure, qui va permettre de mettre en adéquation, si l'on peut dire, dans cet esprit de partenariat public-privé, très cher à Kofi Annan, justement.
Le secrétaire général des Nations Unies.
Absolument.
Oui.
De mettre en adéquation les entreprises et aussi les programmes. Les programmes, il ne faut pas oublier que l'objectif du millénaire, c'est éradiquer la pauvreté d'ici 2005, de moitié en tout cas d'ici 2005.
Votre travail quotidien à Agintis, c'est quoi?
Agintis, c'est très simple, c'est essayer de faire passer du théorique au pratique. Alors, prenons un exemple. Dans Agintis, un des programmes je peux me permettre, que je connais bien et surtout qui a été, j'en parle parce que c'est, il a été lauréat de l'Académie des sciences morales et politiques de l'Institut de France, c'est la télémédecine satellitaire qu'on a pu faire grâce à l'AFISA, c'est-à-dire que dans des régions les plus isolées possibles, comme la région de Tambacounda.
L'AFISA, pardon, c'est la fédération ?
Non, c'est la Force d'intervention sanitaire satellitaire autoportée. C'est une organisation.
Que vous présidez, donc.
C'est une organisation humanitaire technologique qui a permis de faire la démonstration de l'apport des nouvelles technologies à la santé et comme ça pourrait être aussi à l'éducation. Vous savez, il n'y a pas de développement sans éducation et santé, mais il n'y a pas de santé et d'éducation non plus sans développement. Ce qui rejoint complètement les propos de Monsieur Boisard. Donc nous avons pu démontrer sur le terrain qu'on pouvait faire des raccourcis vers le développement. Et là, en tout cas, c'était au niveau de la santé où on a pu faire, en étant pionnier, de la télé-échographie, c'est-à-dire qu'on a fait passer des échographies de femmes qui avaient des problèmes de grossesse, d'une civilisation qui s'appelle les Bétiques d'ailleurs, qui a été trouvée en 1994. Jean Tambacounda, c'est au-dessus de la Guinée, au large du Mali-Mauritanie, en face de la Gambie, si vous voulez. C'est une zone transfrontalière qui est démunie de tout. Et on a pu...
Où étaient les médecins alors ? Où étaient
les médecins ? Bien joué. Les médecins, mais ils étaient à Dakar. Ils auraient pu être à Houston ou à Toulon ou à la Salpêtrière. C'est-à-dire que d'un coup de baguette magique, on a transporté, si on peut dire, comme l'hôpital de la Salpêtrière, en plein milieu de la brousse, grâce aux nouvelles technologies. Ce qui vous montre, si vous voulez, qu'un Agentis, un outil comme ça... Et dans un programme de coopération décentralisée, peut faire passer justement du théorique au pratique.
Oui. Alors, Marcel Boisard, c'est nouveau en fait cette évolution des choses. C'est tout à fait récent. Est-ce à dire qu'avant les structures étaient moins performantes ? Parce que ça participe de votre réflexion actuelle aujourd'hui, mettre en place ces cas concrets. Comme le disait Guylaine Alajouanine, passer de la théorie à la pratique.
Oui, je dirais que la société de l'information, puisque c'est l'allocution qu'on utilise maintenant, est une véritable révolution, ça sans aucun doute, c'est une évidence. Je voudrais juste ajouter peut-être une note de bas de page à ce qu'a dit madame. J'ai assisté à des consultations de télémédecine et j'étais très très impressionné en voyant un professeur de l'université de Genève, par exemple, faire des diagnostics, non pas opérer à distance, mais faire des diagnostics en consultant les radiographies de patients au Mali, sauf erreur. Mais ce je tiens à dire aussi, c'est que c'est également une coopération dans l'autre sens. J'ai vu des docteurs maliens aider les médecins genevois dans ce même hôpital universitaire à diagnostiquer et à soigner certaines formes rares de paludisme. Donc,
c'est un bel exemple de développement et d'apport, effectivement.
Absolument. Alors là, c'est un véritable... c'est un exemple, bon, encore trop rare, c'est vrai, mais de coopération véritable où ce n'est pas l'enseignement à sens unique, mais c'est l'échange des connaissances. Et ça, je crois que c'est assez illustratif. Alors, effectivement, avec les nouvelles technologies, mais ici, dans un institut aussi prestigieux et aussi ancien que l'Institut de France, vous êtes peut-être le meilleur exemple d'avoir eu le courage, si je peux me permettre, d'utiliser ces nouvelles technologies précisément pour apporter la connaissance, ou en tout cas ouvrir un certain nombre d'avenues où les gens peuvent s'engager pour augmenter leurs connaissances.
Et partout dans le monde, effectivement. Guylaine Alajouanine, vous souhaitiez ajouter quelque chose ?
Oui, simplement vous dire que justement Marcel Boisard a bien voulu que nous rejoigne le professeur Gajbuller, dont il parlait tout à l'heure, ainsi que le docteur Ousmane Lee et Louise Lassonde qui nous accompagnent dans le comité de pilotage de l'Agentis pour bien montrer que ce sont des acteurs, entre guillemets, de terrain qui maintenant rejoignent ce programme de coopération décentralisée.
Alors, rapprochement public-privé. Marcel Boisard, comment convaincre les entreprises de participer à cette grande mission humaniste en fait, que vous défendez ?
Oui, alors ça, je crois que les arguments ne sont pas trop difficiles à trouver. Mais d'abord, il faut que nous soyons réalistes. Les entreprises recherchent non pas un profit égoïste, etc., mais pour durer, les entreprises doivent réaliser des bénéfices. Et les entreprises ne peuvent pas être strictement philanthropiques, ça c'est l'évidence. Mais je crois que les deux arguments essentiels sont, d'une part, que les entreprises feront d'autant plus d'affaires ou des affaires d'autant meilleures que le marché augmentera. Et le marché augmente si les gens s'enrichissent, y compris dans les pays en développement. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément qui est plus immédiat et peut-être plus convaincant, c'est que de plus en plus, les sociétés qui notent la qualité des entreprises regardent quel est leur engagement civique ou sociétal.
Et, les sociétés de notation, donc, hein, voilà, qui attribuent une notation à une entreprise en fonction de ses performances.
Absolument. Et ça commence en Europe maintenant, déjà de façon assez sensible. C'est très fort aux États-Unis, surtout dans le domaine du travail des enfants, du développement durable, etc. Et on voit que les performances, précisément dans le domaine de la pollution ou non-pollution, travail des enfants, etc., immédiatement, une implication sur le marché des capitaux. On a vu des sociétés dont les actions ont perdu 60% en une journée à cause d'une nouvelle concernant le travail des enfants ou la pollution. Donc ça, je pense que les sociétés, surtout les grandes corporations transnationales, ont tout avantage parce qu'elles sont disposées à le faire. Il y a eu un très grand malentendu entre le public et le privé pendant très longtemps, surtout au niveau international, où les fonctionnaires internationaux s'imaginaient que les sociétés transnationales ne recherchaient qu'un profit à n'importe quel prix, qui était totalement absurde. Et du côté des sociétés privées internationales, s'imaginant que le bureaucrate international n'avait qu'un souci, c'était de faire des règles pour empêcher les gens de danser en rond. Maintenant, il y a une très grande évolution, une prise de conscience de part et d'autre qu'on ne pourra pas développer les pays en développement sans l'apport des sociétés privées. Donc c'est un apport d'investissement, bien sûr, mais cet investissement doit être accompagné d'investissements publics, entre autres par les grandes institutions financières internationales, je pense essentiellement à la Banque mondiale, plus les banques régionales. Donc effectivement, vous avez raison, il y a un nouvel état d'esprit qui s'est créé depuis quelques années.
Et les entreprises, justement, les sociétés de notation, il y a un cas en France, Notation Sociale, c'est l'entreprise formée par Madame Nicole Notat, ancienne secrétaire générale de la CFDT. Alors, les collectivités locales, Marcel Boisard, est-ce qu'elles ont justement, elles aussi, un rôle à jouer, avec peut-être notamment tout ce qui... On parle beaucoup de délocalisation, décentralisation. Quel est le rôle, qu'attendez-vous des collectivités locales à côté des entreprises?
Oui, c'est-à-dire, d'abord, c'est moins une attente qu'un constat, je dirais. C'est que, n'est-ce pas, dans quelques années, 60% de l'humanité vivra dans les villes. Donc, des villes qui ont 15... 18, 20 millions d'habitants sont des pouvoirs locaux extrêmement importants, et ce sont ces pouvoirs locaux qui détermineront dans une très large mesure le développement durable, en particulier, et le développement économique et la justice sociale, en particulier en offrant des services essentiels. Vous savez que c'est un sujet que la France, bon, moi je ne suis pas français, donc je peux citer la France, la France a développé à Johannesburg, donner accès aux services essentiels, l'eau, la récolte des déchets, la santé publique, le logement décent, au plus grand nombre. Et ceci va se faire au niveau des collectivités locales, que ce soit des grandes municipalités ou que ce soit des régions. Le droit international, donc les Nations Unies, sont encore basés sur le principe de l'intergouvernementalité, n'est-ce pas? On parle d'organisation internationale. En fait, nous sommes des organisations intergouvernementales. Et ça, c'est en train de changer aussi. De plus en plus, même s'il y a quand même une certaine réticence de certains États, les collectivités locales sont appelées à participer aux grands forums mondiaux. C'était le cas du sommet sur Habitat qui s'est tenu à Istanbul. C'était le cas du sommet sur le développement durable à Johannesburg et plus récemment le sommet sur la société de l'information dont la première partie s'est tenue à Genève. Là, il y avait toute une section réservé aux collectivités locales.
Alors, vous luttez directement contre la pauvreté. La pauvreté qui est bien souvent la conséquence de l'ignorance et de l'isolement. Est-ce que finalement, Marcel Boisard, nous trouverons un jour la solution. C'est un travail de longue haleine, évidemment, beaucoup de réflexion, beaucoup d'action. Mais est-ce qu'un jour, ces pays qui ne demandent qu'à se développer pourront le faire vraiment à la hauteur de leurs ambitions et de leurs besoins, surtout pour la population ?
Oui, n'est-ce pas ? Je crois de façon très réaliste qu'il y aura toujours des gens moins riches et des gens plus riches. Ça, sans aucun doute, il y aura toujours des pays moins riches et des pays plus riches. Mais je pense qu'on ne peut pas laisser, sans prendre d'immenses risques, la situation continuer de se dégrader, que des pays continuent à s'enrichir, que d'autres pays continuent à s'appauvrir, et que même à l'intérieur de chacune de ces catégories de pays, les écarts s'agrandissent entre les citoyens. Mais pour ça, il faudrait une véritable, j'allais dire, révolution de la pensée et de l'approche. Et peut-être aussi moins de discours et plus d'action. Je pense en particulier, n'est-ce pas, à tout ce programme des qu'on appelle Global Compact, n'est-ce pas, qui a été lancé par le secrétaire général Kofi Annan, où les entreprises sont appelées à signer une sorte de contrat d'honneur avec 9 principes. Pratiquement toutes les entreprises dans le monde, 250 grandes entreprises françaises y ont adhéré.
1700 en tout.
Sur maintenant, comment va-t-on passer de ces déclarations de principe à l'action ? Je sais que seulement 15 sociétés françaises ont passé des accords avec les Nations Unies. La même chose, alors, du côté intergouvernemental ou international, on ne peut pas continuer à exiger des pays en développement, et là je pense essentiellement aux pays africains, n'est-ce pas, qu'ils fassent des réformes structurelles, des réformes financières, introduire la participation populaire, la démocratie, etc., alors qu'ils ont si peu de moyens, et en même temps ne pas faire l'effort de lever des barrières douanières qui empêchent leurs produits, je pense en particulier au coton de l'Afrique sahélienne, d'entrer dans des marchés des pays déjà extrêmement riches. Il faudra à un moment donné que ce double discours, cette sorte d'hypocrisie cesse, et l'échec du sommet de Cancun de l'Organisation mondiale du commerce est peut-être un avertissement aux grands de ce monde.
Merci beaucoup pour votre témoignage, Marcel Boisard. Je rappelle donc sous-secrétaire général des Nations Unies, directeur général de l'UNITAR, l'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche. Peut-être un dernier mot en guise de conclusion.
Non, je voulais simplement dire, puisque nous sommes à Paris et que nous avons parlé de coopération décentralisée et de pouvoirs locaux, que dans quelques semaines se tiendra ici à Paris un congrès très important de toutes les cités, les principales villes et municipalités du monde qui vont établir une association mondiale des villes et des pouvoirs locaux. Ça va être un apport supplémentaire, disons, pour faciliter l'accès de ces pouvoirs locaux sur la scène internationale.
Et puis il y a un autre rendez-vous, je crois, en 2005, c'est à Tunis cette fois.
Oui, alors ça c'est sur la société de l'information. Curieusement, le sommet sur la société de l'information a été, j'allais dire, non pas divisé parce que c'est un seul sommet, mais va se faire en phase. La première phase a eu lieu en décembre 2003 à Genève, et la continuation, en quelque sorte, de ce sommet aura lieu à Tunis en décembre également 2005.
Merci infiniment pour votre témoignage. Encore bravo. Et puis je vous dis à très très bientôt sur Canal Academy, car nous pouvons faire vraiment, je dirais, un bout de chemin ensemble, ne serait-ce que dans la diffusion de ces savoirs et de ces techniques. Et pour de plus amples informations, je renvoie évidemment nos auditeurs partout dans le monde, il faut le préciser, au site internet de l'UNITAR, www.unitar.org. Merci Monsieur Boisard, à très bientôt.
Canal Académie.